Europe 1,
16h-18h, l'équipée sauvage.
Mathieu Noël.
Bienvenue sur Europe 1, nous sommes à l'orée de 2 heures de rire et de découverte. Je suis Ansel, ma complice Evaroc est en Amazon devant moi.
Aïe, mes cheveux.
Ah pardon, j'ai confondu avec la crinière. Êtes-vous prêts pour l'équipée sauvage? 2 heures de bonne humeur enrichissante intellectuellement pour vous, 2 bastons effrénés pour eux. Car chaque après-midi, désormais, les journalistes de la rédaction s'affrontent au service de votre culture G. Un seul sortira d'ici la tête haute, coiffé de la couronne de chroniqueur du jour. Celui dont le sujet vous aura le plus intrigué, pour les départager, vous, bien sûr, via Twitter, mais aussi notre invité arbitre du jour. Et cet après-midi, je suis tellement fier de l'accueillir que je vais vous la vendre façon Pierre Belmar. C'est une des plus grandes comédiennes françaises. Elle excelle autant dans le registre du drame que de la comédie. Elle n'a eu pas un César, mais 2 Césars, dont celui de la meilleure actrice pour Stupeur et Tremblement. Également écrivain de talent, elle n'a pas écrit 1 roman, mais 5 romans. Elle est de retour au théâtre Édouard VII à Paris, dans l'heureux stratagème de Marivaux, dont les places premier prix ne sont pas à 28, pas à 27, pas à 25, mais à 23 euros TTC. Sylvie Testu est notre invitée aujourd'hui.
Bonjour.
Bonjour Sylvie. Alors cette pièce que vous jouez au théâtre Édouard VII a été jouée la première fois le 6 juin. 1733, Eva y était,
on
se souvient de cette première,
mais très bien.
Le thème est toujours d'actualité, c'est ça qui est fou avec Marivaux.
Bah c'est même flippant en fait, qu'on se pose encore les questions de la liberté des femmes, c'est-à-dire de est-ce que l'infidélité est vraiment un crime, est-ce que on peut maîtriser ses sentiments plus que sa raison, est-ce que...
Voilà. C'est la question qui habite votre personnage, la comtesse.
Exactement. Bon, elle pousse un peu les choses loin. C'est-à-dire qu'elle a une fidélité du cœur et peut-être moins du corps. Comment le dire mieux? Et en fait, elle se sent comme ça, d'une grande liberté, lors d'une soirée où elle tombe amoureuse du chevalier. Et évidemment, lui avait déjà une petite copine, on va dire ça comme ça.
La marquise.
Et la marquise. Et donc, mon prétendant et la marquise décident donc de monter un stratagème pour me mettre à genoux. Venez la voir pour savoir si j'y arrive.
On en parle de cette pièce, on va essayer de ne pas en révéler tous les tenants et les aboutissants. Je vous propose de passer d'abord les troupes en revue. Ils sont beaux, ils sont chauds. Voici nos 2 premiers journalistes en compétition aujourd'hui pour le titre de chroniqueur du jour. À ma gauche, ma chère Sylvie, il est l'homme qu'il vous faut si, comme Eva, vous recherchez tout le temps...
Des bons coups au lit.
Non, à vous tenir au courant des dernières innovations technologiques. Il est notre expert high-tech, Sylvie. Bonjour Anissa Mbida.
Bonjour Mathieu, bonjour Sylvie, bonjour à tous.
Cet après-midi, on dirait un épisode de Black Mirror, cette série qui nous fout les jetons en imaginant comment une innovation technologique pourrait partir en cacahuète dans un futur proche. Sauf que là, c'est pas une fiction.
Non, parce que je vais vous parler d'une expérience qui a mal tourné et qui nous montre qu'il faut pas trop jouer avec Mère Nature parce que ça peut se retourner contre nous.
À ses côtés, Sylvie, un être plus compact, certes, mais dynamique aussi, puisqu'il est notre expert sport. Jérôme Lacroix, prêt à vous jeter dans l'eau devant Sylvie?
Moi, j'ai pas de moule bite.
Oui, c'est une expression, Jérôme. C'est vous aussi un sujet à la frontière du sport et de la science-fiction que vous nous proposez.
Oui, je vais vous parler d'une petite pilule qui améliore les performances.
Attention. C'est seulement pour messieurs ou pas?
Est-elle bleue ou pas, cette pilule?
Non, elle n'est pas bleue et non, c'est pas pour messieurs. Mais on parle de sport de très haut niveau.
Ça marche.
Performance très haut niveau.
Voilà pour le programme, l'équipée sauvage, c'est parti.
Europe 1, l'équipée sauvage.
C'est donc Sylvie Testu qui nous accompagne cet après-midi. Vous incarnez la comtesse dans l'heureux stratagème de Marivaux au théâtre Édouard VII où vous donnez la réplique à Éric Elmosnino. Alors, c'est Marivaux, donc il est question de tromperie. Votre personnage, la comtesse, va tour à tour tromper et puis ça va peut-être se retourner contre elle. Eva avait passé un casting pour le rôle, notamment sur la scène où la comtesse découvre qu'elle est cocu.
Ah, le cochon !
Et finalement, c'est vous qui avez été choisie. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas à quoi ça s'est joué. Des raisons politiques, certainement. Plus sérieusement, c'est un rôle qu'on imagine jubilatoire. Cette femme très libre.
Mais ce qui est jubilatoire, c'est qu'elle enfreint toutes les règles. Ce qui est jubilatoire, c'est qu'elle a une mauvaise foi dingue et elle en est très fière. Et ça, je crois que dans le public, les gens hurlent de rire. Dès que je fais monstre d'une mauvaise foi dingue, et plus je hurle et plus je dis « c'est comme ça et c'est pas autrement », plus les gens sont éclatés. Alors, donc je me dis, ça doit être libérateur pour eux aussi parce que c'est étonnant. Parce que moi, je ne fais pas particulièrement de pirouettes, mais dans le texte, elle passe tellement d'une euphorie à une colère, et elle est dans un déni dingue. À un moment, elle va même jusqu'à dire « Mais mon infidélité, elle est où ?» Alors qu'il y a deux secondes, on l'a vu dans les bras du chevalier, qui est joué par un acteur formidable d'ailleurs, qui s'appelle Jérôme Robard, et qui a un côté Don Corleone. Il arrive tout en blanc, comme ça. Il est hilarant. Et donc les gens hurlent de rire, bien sûr.
Mais est-ce qu'ils hurlent pas de rire aussi parce qu'ils s'y retrouvent un peu aussi dans cette situation de fidélité, d'infidélité, de jalousie et autres sentiments amoureux?
Entre ceux qui ont passé la barrière, ceux qui voudraient bien, ceux qui se disent que non, ceux qui se disent jamais.
On peut y aller en couple quand même, ou est-ce qu'il y a des regards et ça va être un petit peu gênant à la sortie, le débrief?
Quand vous invitez des potes, vous dites « Attends, il en est où lui? Elle en est où ?» On y pense. Mais au final, je pense que la mauvaise foi est aussi dans le public, parce que j'ai deux, trois amis dont je tairai les noms, qui m'ont dit « C'est super, qu'est-ce que j'ai ri !»
Oui, bien sûr, tu t'y es retrouvé,
t'aurais
mon cochon.
Tu n'aurais pas dû rire autant.
Elle est actuellement au Théâtre Édouard VII dans l'heureux stratagème de Marivaux. Sylvie Testu est notre invitée jusqu'à 18h.
Europe 1.
Vous écoutez L'Équipé Sauvage, qui était d'ailleurs, on le sait peu, l'émission préférée de Marivaux.
C'est vrai ? Ah, c'est top !
Mais bien sûr ! À suivre, une expérience de mutation génétique qui tourne mal. Ces scientifiques voulaient rendre des moustiques stériles afin qu'ils ne soient plus vecteurs du paludisme. Ils ont muté, oui, mais de manière imprévue. David Cronenberg nous avait pourtant prévenu dans La Mouche.
Tu es en train de changer. Tout en toi est en train de changer. Ces poils étranges qui ont poussé sur ton dos, ils ne sont pas humains.
On n'a pas écouté. À tout de suite.
L'Équipé Sauvage sur Europe 1. 16h, 18h. Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, L'Équipé Sauvage continue 2 heures pour vous détendre sans pour autant mettre en veille votre cerveau. Afin de le stimuler, nos journalistes se surpassent chaque après-midi au service de votre culture générale. Comme chez Uber ou Sushi Shop, après leur prestation, vous les notez. Celle ou celui qui aura obtenu les meilleures notes sera élu chroniqueur du jour sous l'œil de notre invité d'honneur Sylvie Testu, actuellement à l'affiche de l'heureux stratagème de Marivaux au Théâtre Édouard VII à Paris. Sylvie, comment vous vivez cette pièce ?
Moi, je ne fais pas beaucoup de théâtre. C'est assez rare que je trouve un texte suffisamment fort, suffisamment, enthousiasmant pour tenir 3 mois.
Vous l'avez découvert là, ce texte, ou vous le connaissez?
Non, je le connaissais. Ouais. En fait, il y a 15 ans, Ladislas Chola m'avait proposé.
Le metteur en scène.
Et je me suis dit, ouais, bon, je ne sais pas si j'ai envie de jouer du Marivaux maintenant. J'avais une impression un peu peut-être de quelque chose qui serait moins, qui aurait moins traversé. En fait, le temps que Molière, par exemple. Ouais. C'est complètement faux.
Et c'est faux.
Complètement faux. Donc, je lis mieux maintenant qu'il y a 15 ans. Je tiens à le dire et à le souligner. Je suis bien meilleure lectrice et j'ai bien fait de dire oui, parce que c'est une merveille, cette pièce.
Vous êtes une flippée dans la préparation. J'ai lu que vous pouviez réciter à vous-même le texte chaque jour avant la pièce. C'est toujours le cas.
Je l'ai déjà fait.
Vous l'avez déjà fait, là ?
Oui, je l'ai déjà fait.
Bah oui, forcément.
Et est-ce que vous connaissez les répliques de vos partenaires ?
Pas mal, certaines.
Ah,
ouais.
Vous,
certaines.
Vous pouvez leur souffler s'il y a un petit trou de mémoire.
Ou alors je peux passer par au-dessus, parce qu'en comme on est vraiment en opposition, si je prends leur réplique, je m'engueule moi-même. Donc en fait, ça va être compliqué.
Ça peut être cocasse aussi. Hein. Lui, il a répété 27 fois sa chronique avant de vous la livrer. Compétiteur dans l'âme, il ne laisse rien au hasard pour éblouir l'invité dont la voix compte triple, je le rappelle. Hier, il a même proposé ses services à la chanteuse Rose, qui avait un petit pépin technique sur son live. Proposition dont on dit d'ailleurs rétrospectivement qu'elle avait peut-être un double sens.
Mais tu verras, avec mon petit outil, on va pouvoir modifier tout ça en temps réel.
Alice Mbidard, avec votre petit outil, vous êtes notre spécialiste romantisme et innovation. Sauf que parfois, Alice, l'innovation peut tourner au cauchemar, surtout lorsqu'il est question de manipulation génétique.
Oui, au départ, ça paraissait une très très belle idée, hein, créer une arme fatale anti-moustique, parce que vous savez que les moustiques, c'est le premier prédateur de l'homme. Hein, il est pourvoyeur de maladies comme la malaria, la fièvre jaune, la dengue, la chikungunya. Et la malaria, il faut quand même rappeler que ça tue plus de 1000 enfants par jour. C'est considérable, hein, c'est une maladie des plus mortelles, tout ça par un petit moustique. Donc on se dit qu'il fallait trouver quelque chose. Alors les scientifiques ont eu une très très belle idée, hein, modifier génétiquement des moustiques pour les rendre stériles. Comme ça, quand les relâche dans la nature, ils vont essayer de s'accoupler avec des femelles et ils vont faire des enfants qui auront des œufs qui ne seront pas viables. Et donc, au fur et à mesure, ça va complètement détruire la population des moustiques.
Attendez, à ce stade, déjà une petite question. Est-ce que néanmoins les moustiques ne sont pas utiles pour quelque chose ?
Parce que là, il y aura plus de moustiques.
Dans l'écosystème, ils ont.
On a beau chercher, on ne trouve pas.
Ah oui, à ce moment-là, d'accord. C'est pas comme les abeilles qui pollinisent ou là,
non, non, non. Ça pollinise peut-être un petit peu, mais.
C'est un nuisible.
C'est un prédateur, un nuisible. Un pur nuisible.
Était génial. À la base.
Voilà, donc belle idée, on tue les moustiques, on détruit la population des moustiques, on empêche de nous envoyer des maladies. Sauf que c'est pas tout à fait ce qui s'est passé. Souvenez-vous, Jurassic Park.
Mais John, vous ne voyez pas le danger inhérent à ce que vous faites ici? Le pouvoir génétique est la force la plus terrible que la planète ait connue, mais vous la maniez comme un enfant qui a trouvé le flingue de son père.
Oui, exactement comme dans Jurassic Park. Au début, tout s'est bien passé. Hein. C'est que pendant les 18 premiers mois, la population de moustiques a commencé à baisser. Les moustiques ont commencé à disparaître. Sauf que depuis un an, et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on commence à trouver des moustiques mutants dans la nature. Ces petits moustiques qui ne devaient pas se reproduire, vous savez, dans Jurassic Park, ils avaient fait que des femelles pour qu'ils ne puissent pas se reproduire. Bah, c'est la même chose qui s'est passée. Les moustiques stériles ont réussi quand même à faire des petits bébés. Et donc, le gène qui devait les rendre stériles s'est retrouvé dans la population générale des moustiques. Et comme vous le savez, quand il y a un mélange d'espèces, quand il y a un métissage, l'espèce devient beaucoup plus forte, beaucoup plus costaud. Si on mélange les gens entre eux, ils finissent par dégénérer. Mais quand on les métisse, ils deviennent beaucoup plus costauds. Donc aujourd'hui, on est très très inquiet de ce nouveau gène qui se balade dans la nature.
Ah, parce que c'est dans la nature, ça n'a pas été mené dans un laboratoire où ça
s'est
parti en sucette.
Non, il y a un demi-million de moustiques génétiquement modifiés qui ont été jetés dans une ville au Brésil pour justement tuer les moustiques qui ravageaient les populations. Et ces moustiques-là ont fini par s'accoupler avec des moustiques traditionnels. Et le gène de ces moustiques s'est retrouvé dans d'autres, et ça a muté, s'est retrouvé dans les moustiques qui, au début, ne devaient pas être contaminés par ce gène. Et là où c'est embêtant, c'est qu'on se dit...
Je sens que Sylvie a doit d'annuler ses vacances au Brésil.
C'est les apprentis sorciers dans un labo. Ils ont essayé sur 4 moustiques, ça a hyper bien marché. Ils en ont 1000. Allez, ça va.
C'est pas très sérieux tout ça. C'est inquiétant.
C'est extrêmement sérieux. C'est une étude qui a été publiée.
Je veux dire, c'est pas très sérieux de la part des scientifiques qui ont mené cette expérience et qui ont libéré les moustiques.
Au départ, on se dit que c'était une bonne idée. Surtout que c'est le genre de choses, que c'est une expérience qui est reproduite dans plusieurs endroits dans le monde, énormément en Afrique, énormément en Inde, parce que c'est quelque chose qui, on se dit, c'est une solution quand même.
Qu'est-ce qu'on risque si on se fait piquer par un des moustiques
mutants ?
La
question du bon sens près de chez vous est baroque.
Alors, ils ont commencé à faire des études, des analyses. A priori, il n'y a pas de risque pour l'homme, mais bon, on n'en sait pas grand-chose. Ce qui peut se passer, c'est que le moustique devienne beaucoup plus résistant aux insecticides, en revanche.
Ah bah. Et
que
pas ce à moustique... ma savate.
et on a remarqué, malheureusement, que le moustique était toujours capable de transporter les maladies, la dengue, le zika, le chikungunya, etc., malheureusement.
Merci Anissé Mbida pour cet éclairage scientifique. Si je n'étais pas pervers, on s'arrêterait là, mais vous me connaissez. Voici la question vache de l'autre chroniqueur, Jérôme Lacroix.
Moi, j'ai attendu pendant tout le papier que vous nous expliquiez comment faire que les anti-moustiques soient efficaces pour qu'on arrête de se gratter. C'est l'info que j'attendais.
Alors, juste pour votre gouverne, il y a plusieurs solutions d'anti-moustiques. Si vous êtes des fans de Skrillex...
C'est quoi
Skrillex?
Skrillex, vous ne connaissez pas, c'est la techno.
Que je vous entraîne ici, on n'est pas aussi jeune que vous. Hein.
On a découvert deux choses. La première, c'est que Skrillex fait fuir les moustiques. La musique techno fait fuir les moustiques. Et deuxièmement, la lumière fait fuir les moustiques. Donc maintenant, on utilise de nouveaux anti-moustiques un peu différents, soit à base de musique techno, soit à base de flash lumineux.
Je vais aller dormir dans la chambre de mon fils.
Garantie sans moustiques. Merci, c'était la première chronique en compétition de l'après-midi. La chronique d'Anissé Mbida, notre chevalier de l'high-tech et de l'innovation. Sylvie Testu, je vous sens conquise.
Chevalier que vous êtes, vous avez qu'à aller voir en face avec votre épée en caoutchouc et votre slip moule-couille.
Non, mais je la connais, ça veut dire qu'elle a kiffé ça globalement. Elle est actuellement à l'affiche de l'Euro Stratagème au théâtre Édouard VII. Sylvie Testu passe l'après-midi sur Europe 1.
Europe 1.
L'équipe est sauvage continue 2 heures d'une compétition cruelle où les meilleurs journalistes d'Europe 1 défilent au micro et s'affrontent à coups de chronique pour vous dérider et vous informer. Une émission pleine de promesses, pas toujours suivie des faits.
Ah oui, je veux dire un truc intelligent là.
À suivre. Contrôler la santé des sportifs et éviter qu'ils ne fassent des malaises par l'intérieur, Eva. Par l'intérieur. Les athlètes vont devoir ingérer une pilule intelligente. Notre expert vous explique. Eva, une prédiction, un feeling quant à cette chronique invasive?
On va essayer d'être très classe.
Oui, je pense qu'on va y réussir. Ce sera juste après The Fame, Summer is a Curse sur Europe 1.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Il lui arrive d'oublier de mettre du déo, mais c'est toujours les bras ouverts qu'Eva Rock vous accueille chaque après-midi sur Europe 1. Dans une ambiance semi-potage, semi-savante, que nous pourrions donc qualifier de potasse savante. 2 heures pour rire et découvrir en compagnie d'une sacrée brochette de lumière au goût éclectique. Comme notre invité du jour, Sylvie Testu, on aime François Sagan, mais on aime aussi les visiteurs. Et il arrive que ça se voit.
Et si tout va bien, eh bien il devrait ouvrir une pizzeria dans sa ville de Houille.
Monsieur Houille, OK. Oui, parfois ça, c'est grave. Oui, Sylvie Testu, vous étiez la sœur de Robespierre dans Les Visiteurs 3. Vous voilà la comtesse dans L'Heureux Stratagème au théâtre Édouard VII. C'est une pièce de Marivaux. Sans trop en révéler, évidemment, parce que ça fait partie du jeu, mais en quoi consiste le stratagème? Le début de celui-ci, en tout cas.
Le stratagème, ça consiste dans le fait de faire que la comtesse soit moins pleine de certitude, qu'elle ne traverse pas la vie comme elle en a envie, en se servant des gens comme elle le souhaite. On va dire ça comme ça, pour ne pas dévoiler la fin.
Ouais.
Mais en fait, au départ, il y a quand même deux losers et deux sortes de winner, on va dire comme ça, enfin de gagnant. Et à la fin, ça s'inverse quand même très clairement. Ce qui n'est pas fait pour me plaire. Je préfère le début de la pièce.
Il y a aussi la langue de Marivaux dans cette pièce que certains vont découvrir. C'est un plaisir pour une actrice de
oui, c'est un plaisir. Alors au départ, c'est vrai qu'on a tendance à se méfier. Parce qu'on ne peut pas éviter les élisions, on ne peut pas éviter les ne-pas. Enfin, bon, voilà, il faut être très très clair. Parce que pour faire passer le texte, ça peut être compliqué. Mais en revanche, c'est un peu comme de la musique. Il faut aller avec et pas se battre contre. Dès que vous sortez du texte, le texte vous dit « Sors !»« Dégage !» On ne comprendra donc rien de ce que tu diras. Il faut vraiment être super précis. Mais en fait, à l'intérieur de ça, on trouve une vraie liberté. Et moi, par exemple, parfois on me dit « Ah, bah, dis donc, t'arrives à être très contemporaine. » Si c'est pas moi, c'est le texte.
C'est le texte.
Si vous ne le faites pas résonner comme dans... Voilà, comme dans une chapelle. Finalement, c'est un texte qui est assez contemporain. Il est élégant, mais il passe parfaitement.
Et Varrock ?
Il est élégant, mais extrêmement compliqué, parce que si vous lisez le texte de la pièce, c'est quand même pas évident. Il y a des passages plus ou moins
faciles.
Parce
qu'il est dense.
Mais oui, il est extrêmement dense.
Il est dense, et en fait, quand on lit, on ne fait pas de pause. Et, on change, et comme lui, il met plein de sentiments qui sont collés les uns aux autres. C'est-à-dire que moi, mon personnage passe du « Ah oui, vous avez raison, mais non, vous avez tort ». Vous, quand vous le lisez, vous collez tout et donc vous ne voyez pas les nuances. Nous, à force, évidemment, de le lire et donc de l'apprendre par cœur, on finit par en extraire le sens.
Et puis, il faut préciser aussi, le génie de Ladislas Chola, ça a été aussi de l'adapter en le mettant dans une époque plus moderne. C'est l'époque des années folles, à peu près, c'est ça hein.
Surtout dans une époque, en fait, où il y a un vrai désir de liberté de la part des hommes et des femmes. Parce que ça n'est pas particulièrement une pièce féministe. Alors, on parle vachement des femmes, parce qu'encore aujourd'hui, malheureusement, il se trouve qu'on se pose encore la question. Mais c'est aussi pour les hommes, c'est-à-dire qu'eux-mêmes se donnent le droit à la faiblesse, aux larmes. Le personnage joué par Eric Almosnino, qui s'appelle Dorante, son personnage a vraiment les bras en croix au départ. Et ce qu'on attribuerait jusque-là, plutôt à des femmes. Et c'est, en fait, les rapports sont assez inversés. C'est pour ça que c'est assez... On se dit, est-ce que c'est moderne ? Non, c'est qu'aujourd'hui, on se pose encore les mêmes questions.
Exactement.
Un mot, Sylvie Testu, sur votre palette. C'est rare qu'une actrice soit aussi à l'aise dans le théâtre du XVIIIe siècle et dans des films d'auteurs plus pointus ou dans des grosses comédies type Les Visiteurs. On a l'impression que vous êtes chez vous partout, crédible dans tous les registres. La polyvalence, c'est quelque chose que vous avez cultivé ? Vous vous êtes dit, dans ma carrière, je vais toujours faire des choses différentes ? Ou c'est juste en vous, en fait, cette polyvalence ?
Non, je pense que c'est en moi, ça m'angoisse, en fait. Dès que je sens que je me sclérose, enfin, qu'il y a quelque chose qui devient une mécanique, un truc comme ça, ça m'angoisse. Mais toute ma vie est comme ça, c'est-à-dire je déménage tous les 2 ans, je ne sais pas, je dois... un truc.
Mais c'est horrible.
Alors c'est horrible pour les gens autour de moi, mes enfants me regardent avec un œil sombre. Mon conjoint, pareil, on déménage plus maintenant. Là, maintenant, ça fait seulement une année que je suis là, attendons. Parce que pour l'instant, je cherche encore l'interrupteur le jour où je le trouve dans le noir.
C'est que c'est le moment de déménager. On parlait de polyvalence au chapitre Secret Star. Il paraît que vous avez même des talents d'imitatrice et qu'il ne faut pas trop vous pousser pour que vous imitiez Vanessa Paradis ou même Eddie Mitchell. Eddie Mitchell ?
Oui. Enfin, c'est pas que je l'ai mis.
Si, allez-y.
C'est que je m'amuse. Mais il fait comme... Tu peux préparer le café noir, ta nuit blanche et même ton mouvoir. C'est bien ou pas ?
C'est excellent. Bah,
je faisais mourir de rire mes sœurs.
Justement, tout de suite, la réaction d'Eddie Mitchell. Alors Eddie, ça t'étonne hein ?
Ça fait plus que m'étonner, ça me trouve le cul.
Ah, voilà. Je crois qu'il a... Il a
ça fait plus que m'étonner, ça me trouve le cul.
On ne sait plus lequel est le vrai.
C'est moi qui fais le jingle.
Incroyable. Sylvie Testu actuellement à l'affiche de l'heureux stratagème de Marivaux au Théâtre Édouard VII à Paris. Elle est notre invitée jusqu'à 18h.
Europe 1.
L'équipe est sauvage continue 2 heures d'allégresse informative rythmée par une trépidante compétition mettant aux prises la crème des journalistes d'Europe 1. Vous en avez déjà entendu un. Eva Rock, mon adjudante, est en train de débriefer Anis Mbidar.
Feignant.
Elle va ensuite secouer Jérôme Lacroix.
Quel connard.
Bref, la compète bat son plein dans cette ambiance de franche camaraderie qui fait la force de notre radio. À suivre, quand la plus haute technologie s'invite chez et même à l'intérieur des sportifs. C'est nouveau, c'est assez dingue. Restez avec nous.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h. Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe sauvage, l'émission qui muscle votre cervelle sans snober vos zygomatiques. 2 heures d'une féroce compétition entre les plus valeureux journalistes d'Europe 1. Un seul sera élu chroniqueur du jour, sous l'œil complice mais impitoyable de notre invité arbitre Sylvie Testu, actuellement à l'affiche d'un excellent Marivaux au Théâtre Édouard VII à Paris. Sylvie, vous ne nous avez pas encore dit ce que vous avez pensé de la chronique d'Anis Mbida.
J'essaie de rester diplomate, on va dire ça comme ça.
Bien, 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 bien. C'est donc en pleine confiance que notre deuxième candidat va se lancer aujourd'hui. Car oui, Jérôme Lacroix, notre expert sport, est un homme de défi. Sa femme, Madame Lacroix, tâche souvent de le raisonner en vain.
Pourquoi te cramponner à cette idée alors que tout le monde décrocherait?
Parce que je suis un boxeur. J'ai ça dans la peau, Adrien.
Vas-y, mon champion, on t'écoute.
Merci, merci. Je suis obligé d'enchaîner, du coup.
Alors, oui, il n'y a pas de lancement.
Oui, bah non, mais c'est tant mieux. Sylvie Testu, je ne sais pas si vous aimez les séries télé. Est-ce que vous vous souvenez, par exemple, de la série Star Trek? Série née dans les
bien
années
sûr.
60.
Elle imite même le Capitaine Spock. Retrouvez-nous sur Europe1.fr en vidéo.
Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait un petit appareil médical dans cette série qui s'appelait le tricorder. Un petit appareil qui faisait ce bruit-là. C'est comme un scanner. Vous scanniez le corps de quelqu'un et il vous donnait en temps réel des infos sur son état de santé. Ils étaient souvent blessés. Aujourd'hui, on y est presque à ça, mais en vrai. Je vous présente, regardez ça, cette pilule. Alors, je vous en montre une photo si vous êtes avec nous sur Europe1.fr. Mais je vous prends
j'espère
à témoin.
J'espère que c'est pas taille réelle.
Je vous prends à témoin dans le studio, oui, il y en a deux. En fait, c'est la même, vous allez comprendre. Alors, on a là, à gauche, une gélule, on est d'accord, couleur rouge et blanc.
Classique.
Tout ce qui paraît de plus classique, mais à droite. On en voit l'intérieur et c'est un microsystème électrique avec des capteurs. Ce petit condensé de technologie, les athlètes qu'ils souhaitent pourront l'ingérer avec
mais
à la
on
clé.
On reste maître de son choix, l'athlète
oui,
peut dire non.
C'est absolument, c'est ce qu'ils souhaitent. À la clé, il y a des informations très utiles.
Et bon, mais ça sert à quoi?
Alors, une fois ingérée, la pilule, grâce à ses capteurs, va mesurer la température de l'athlète avant, pendant et après l'effort.
Alors, on a compris le but, mais cette pilule, comment elle fonctionne?
Alors, elle pèse moins de 2 grammes, sans aucun danger pour celles et ceux amenés à l'ingérer. Et bien sûr, les capteurs vont mesurer la température. Les données collectées en temps réel doivent ensuite être transmises aux entraîneurs, au staff de l'athlète. Alors là, et ça c'est la dernière évolution, plutôt rigolote, ça se fait en Bluetooth. Donc, il faut imaginer un entraîneur ou un préparateur physique en train de se coller avec sa tablette ou avec son téléphone au bide de notre athlète pour choper via le Bluetooth et à travers le corps les données transmises par la gélule. Ben voilà. Alors, l'idée, c'est de voir comment réagit le corps pendant un effort, sous une forte chaleur, voire très forte chaleur, de constater ainsi les limites de l'athlète et d'adapter l'entraînement pour progresser en fonction de ce paramètre de la chaleur.
Et vous vouliez aussi nous expliquer à quel point cette pilule pouvait être utile pour les athlètes paralympiques.
Ah oui, ça j'y tenais parce que j'ai découvert certaines lésions, moelle épinière par exemple, font que le corps transpire moins, voire pas du tout, parce que l'organisme n'est plus en mesure de transmettre au cerveau le signal du réchauffement du corps. Alors pour eux, comment savoir que le corps est en surchauffe et qu'on risque le malaise? Et là, on dit merci la petite pilule. Alors la technologie de pointe dans le sport, comme avec cette pilule, c'est de plus en plus courant. Au-delà des GPS que vous avez peut-être pour votre footing, vos montres connectées, etc. Je peux vous parler par exemple de ces chercheurs de Polytechnique qui ont recréé dans un ancien camion frigorifique pour viande les conditions d'une descente de ski pour améliorer le glissement des skis et faire aller les compétiteurs plus vite du coup pendant les compétitions de ski, des clubs de golf qui mesurent la vitesse du swing, des ballons, des chaussures connectées, etc. Et puis alors moi, je vous livre mon conseil perso qui allie sport et haute technologie.
Oula.
C'est la sieste.
Ça c'est tout vous, Jérôme. Voilà. Moi qui vous connais
attention,
bien.
Attention, c'est classe. La power nap, la sieste énergisante, des études l'ont prouvé, menées sur des basketteurs professionnels. Plus de sommeil, et pour eux, c'était 9% de réussite en plus au tir.
Et Baroque.
Et la petite pilule en question, elle est valable pendant combien de temps dans le corps?
Alors, 24 à 48 heures. Personne ne me demande comment on l'évacue.
On s'en doute, non?
Ben voilà, vous avez trouvé.
Mais même si ça ressemble à un petit thermomètre.
Jérôme Lacroix, ça pourrait s'arrêter là. Mais est-ce que c'était très malin de faire une chronique technologique devant Anis Mbida? Voici la question vache d'Anis Mbida.
Oui, je vois que mon camarade a fait des copies un peu mes chroniques. Parce que cette idée de pilule qu'on met à l'intérieur, qui surveille le corps, etc., qui est capable même de donner des médicaments hyperlocalisés, c'est quelque chose qui est utilisé, enfin, dont on rêve dans la médecine depuis énormément de temps. Et je voulais lui poser la question, est-ce que vous savez quels ont été les résultats des tests cliniques de toutes ces pilules qui sont capables de transmettre des informations à l'extérieur du corps?
Bah non, mais vous allez nous les dévoiler.
Ça n'a jamais fonctionné.
Comment ça?
Parce que soit la pilule éclatait et donc faisait des lésions à l'intérieur. Bah oui, parce que c'est quand même un thermomètre une puce Bluetooth, c'est pas un truc qu'on recommande d'avaler. Ouais. Hein. Il y a des bébés qui avalent des piles, c'est une catastrophe parce qu'il y a forcément une pile pour faire de l'énergie, pour émettre.
Donc il y a une forme de danger dans ce que nous propose Jérôme Lacroix.
Évidemment qu'il y a du danger, mais pour les sportifs, on est prêt à n'importe quoi. On parlait d'apprenti sorcier tout à l'heure. Quand on veut avoir des performances, quand on veut gagner, et ben on fait parfois un peu n'importe quoi. On est très court-termiste dans le sport pour avoir des records.
Merci. J'ai jamais eu de victime, quoi que ce soit, liée à ces pilules. Dans le sport, dans le sport.
Dans le sport. Oui, mais peut-être.
Je suis épaté.
Sylvie Testu est avec nous cet après-midi pour l'Eurostratégie à être Edouard VII. Vous avez joué beaucoup de rôles, Sylvie, sauf erreur de ma part. Peu ou pas de sportive? C'est une exigence contractuelle chez vous? Vous n'incarnez pas de sportive?
Ben non, on ne me l'a jamais proposé. J'imagine que ce n'est pas ce que j'indique, moi.
Oui, mais vous pouvez tout jouer, vous êtes une grande actrice.
Oui, il y a quand même un truc physique où je ne sais pas. Pourtant, je le suis quand même.
Vous êtes sportive dans la vie?
Ouais, je fais quand même pas mal de funboard, en fait de la planche à voile, on dit.
De funboard, ouais. Alors ça, Sylvie Testu qui
c'est
fait du funboard.
C'est très vintage, mais ça revient à la mode.
C'est une rideuse.
Maintenant, c'est le kite. Et moi qui suis des années 70, et ben j'adore ça. Puis je fais du ski.
Elle fait du ski car elle est lyonnaise.
Exactement. Europe 1.
La compétition, c'est important, bien sûr, le dépassement de soi et la discipline aussi. Mais comme le disait Roland Giraud dans Papy fait de la résistance...
Il ne faut pas avoir honte d'être gay.
C'est pourquoi, dans un instant, nous ouvrirons une des pages toujours les plus cocasses de notre émission. Un savoureux quiz opposant l'invité à Eva Rock. Pour pimenter les choses, évidemment, le thème du quiz favorise outrageusement l'invité. Et aujourd'hui particulièrement, puisqu'il sera question de la vie de couple. Or, la dernière fois qu'Eva a eu une vie de couple... C'était sous Pompidou et ça s'était mal terminé.
Et mon ex, il s'est pas pris que des pièces de monnaie sur la gueule. Hein.
Oui, c'était des anciens francs. Salut, on s'aime moi.
L'équipe est sauvage avec Mathieu Noël.
J'ai l'impression qu'il vieillit pas, qu'il a toujours le même âge.
16h, 18h sur Europe 1. Mathieu Noël.
C'est vous, Eva, qui parlez dans
je
ce petit
document.
Ça ressemblait à la voix d'Eva.
Ah oui, c'est moi.
Alors, c'est très sympathique de me faire des petites jingles surprises. L'idée, c'est d'être méchant, hein, c'est pas d'être gentil. Si les gens disent que je suis jeune, ça ne fonctionne pas.
Vous écoutez, c'est en vraiment tout cas, très étonnant.
C'est très bizarre.
Oui.
Vous écoutez l'équipée sauvage, deux heures où le rire et le savoir se bécotent au service de votre bonne humeur et de votre culture G. Et voici venu le moment où chacun retient son souffle. Ce moment où notre invitée, aujourd'hui la comédienne Sylvie Testu, actuellement à l'affiche du théâtre Édouard VII, affronte l'équivalent européen du Père Fouras, Eva Rock. Sylvie Testu, tous les jours, un quiz oppose notre invitée à Eva. Et aujourd'hui, je pense que vous partez avec un sérieux avantage, car le thème, c'est le couple, en hommage à votre pièce, L'Heureux Stratagème de Marivaux. Un thème assez éloigné du quotidien d'Eva Rock. Bref, changeons de sujet. C'est un vrai faux. Vous répondez chacun votre tour, chacune votre tour. Chaque bonne réponse vaut un point. Sylvie Testu, en Asie du Sud-Est, sur l'île de Bornéo, une coutume étonnante. Un couple qui vient de se marier n'a pas le droit d'aller aux toilettes pendant 3 jours. Vrai ou faux?
Oh, faux. C'est impossible.
Ne pas aller aux toilettes pendant 3 jours? Est-ce possible ou pas?
Moi, je dis que c'est impossible.
Morf, vous n'avez jamais passé un week-end avec Jérôme Lacroix?
C'est sûr.
Réponse vraie!
Mais quelle
horreur, hein. Ils ne doivent même pas se laver, ne pas utiliser les toilettes. La famille les surveille, car s'ils le font, une malédiction s'abattra sur leur union.
Ils ne boivent pas, donc?
Ah, ça,
aller aux toilettes, c'est
mais
aussi...
Oui, en tout cas, la réponse était vraie.
Eh bien, on refuse.
Eva Rock. Laurence Ferrari interdit à son mari, le violoniste Renaud Capuçon, de mettre son violon dans la chambre où il dort. Vrai ou faux?
Non, c'est faux. Il a le droit de mettre son violon dans la chambre.
Eh bien, c'est vrai. En tournée dans les hôtels, son violon est toujours au pied du lit. À la maison, il est dans une pièce juste à côté. Il faut dire que pour Renaud, je cite, c'est comme une rencontre humaine, comme lorsque j'ai rencontré ma femme. Forcément, ça n'a pas dû lui plaire à Lolo.
On est toujours chez Marivaux.
Et c'est courbe.
Et c'est courbe, c'est vrai. Une question, 3 propositions, vous répondez ensemble. Le pape italien Innocent III, au XIIIe siècle, a pris une décision importante concernant le mariage. Laquelle? 1. Il a autorisé les futurs mariés à s'habiller autrement qu'en blanc. 2. Il a autorisé le mariage aux sourds et muets. Ou 3. Il a autorisé au couple, une fois marié, d'autres pratiques que la sacro-sainte position du missionnaire.
Je dirais qu'il a autorisé les couples à se marier avec une autre couleur que le blanc.
Moi, c'est votre réponse?
Non, moi, c'est plutôt les histoires de missionnaires. Je pense qu'ils ont le droit de faire d'autres types de positions.
Alors, on va faire un petit point théologique rapide.
Tu sais, c'était peut-être qu'un rêve pour une sorte de... C'est une nébuleuse.
Donc, pour Eva Rock, c'est comme ça qui est intéressant pour nous dire. C'est pour Eva Rock. Donc, au XIIIe siècle, le pape...
Ça me plairait, cette idée, écoute.
A réuni les évêques et il s'est dit, qu'est-ce qu'on va pouvoir foutre pour le prochain concile? On va autoriser la levrette. C'est sorti de la bouche d'Anissé assez spontanément. Non, vous avez tort toutes les deux. Décidément, il y a pas. marqué dans ce... C'est effectivement, avant la décision d'Innocent III, il fallait absolument que les mariés expriment clairement leur consentement.
Ah,
en 1215, lors du 4e concile du Latran, vous connaissez tous, sous l'impulsion d'Innocent III, on estime que le consentement par signe est clair et valable. Merci Innocent. Eva Rock, là il va falloir marquer des points. Hein.
Oui.
La première fois que Marlène Schiappa a rencontré son mari dans un contexte professionnel, elle lui a proposé un verre d'eau. Il a dit oui, elle a répondu de se le servir lui-même. Vrai ou faux?
C'est idiot dans les deux cas.
Marlène, si tu nous écoutes. Ne perdons pas des auditrices facilement, Eva.
Oh, c'est possible que ça soit vrai, cette histoire-là. J'irais vrai.
C'est vrai. Elle l'a raconté dans Paris Match. Marlène avait 19 ans. Elle travaillait dans un cabinet de recrutement. Son futur mari est arrivé pour postuler. Proposition de verre d'eau. Mais comme elle était occupée, elle lui a dit de se servir lui-même à la fontaine à eau.
Oui, c'est bien.
C'est pas bien. Le mot que vous avez utilisé tout à l'heure, c'était
con.
C'était con. C'était con.
Ce qui est bien, c'est qu'elle le relève. Elle le soulève.
Oui.
Elle s'en souvient.
Elle s'en souvient.
C'est lui qui doit s'en souvenir. Sylvie Testu, c'est la dernière question. Attention, car je crois qu'Eva a un point.
Un point.
Sylvie Testu, la personne avec laquelle je suis actuellement en couple dans ma vie, se produit tous les vendredis, samedi et dimanche soir au Crazy Horse. Vrai ou faux?
Faux.
Faux. C'est seulement les vendredis et samedi. Elle fait relâche le dimanche.
Yes.
Elle vous embrasse. Égalité dans ce quiz. C'est bien ça en régie? Égalité, j'aime
quelle
beaucoup.
Escroquerie.
Comment ça, quelle escroquerie? J'embrasse ma compagne. Elle est actuellement à l'affiche au Théâtre Édouard VII avec entre autres Éric Elmosnino dans l'heureux stratagème de Marivaux. Sylvie Testu, notre invitée jusqu'à 18h.
Europe 1.
Le savoir fait peur, souvent. Mais comme disait l'immense Gérard Depardieu...
La première fois, ça gêne toujours. Il faut savoir patienter pour y prendre du plaisir.
Ayez confiance, vous écoutez l'équipe est sauvage et dans quelques minutes, on débarque près de chez vous pour notre décrochage local, régional, géographique. Aujourd'hui, on part dans le sud-ouest pour une rencontre magique. Vous vous souvenez tous de Kevin Costner dans Danse avec les loups?
Ah oui, oh putain.
Oui, eh bien, si vous dansiez vous aussi avec les loups, genre pour de bon, on vous explique juste après David Guetta, Dangerous sur Europe 1.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h, Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, 2 heures en équilibre instable sur cet étroit filin qui sépare le journalisme le plus exigeant du divertissement le plus potache. Pour que ça tienne, il faut un professionnel de haut vol, autrement dit, Bibi. Certains disent que je suis dur, autoritaire, voire tout simplement chiant. C'est faux. Par antenne, je suis toujours prévenant et à l'écoute de mes collaborateurs. Grâce à l'impartialité légendaire de notre monsieur cinéma, vous saurez quel film aller voir en salle cette semaine. Ce qui n'est pas du tout ce que tu fais en plus, hein, mais bon, t'as rien à voir. Mais s'ils étaient mieux expliqués dans les cases du tableau vos sujets, il n'y aurait pas de... Hein, voilà.
Ou alors il y a une autre option, c'est que tu parles plus avec les gens.
Dieu qu'ils sont chafouins. Un vent de révolte souffle déjà dans l'équipe. Ça se passe bien dans la troupe du Théâtre Édouard VII, Sylvie Testu. Éric Elmosnino, il est sympa.
Oh oui, c'est un gamin. C'est un sale gosse, il cherche la bêtise, il cherche à nous faire rigoler. Oui, en fait, le truc à l'intérieur de cette pièce, c'est qu'il faut s'amuser. Donc souvent, on a l'œil qui frise et ça, c'est formidable.
Mais parce que, alors, pardon, c'est une réflexion de novice, mais ça paraît tellement compliqué de jouer Marivaux avec ses répliques qui sont quand même complexes pour nous, dans ce français un peu ancien, parfois empoulé et qui a une certaine saveur. Mais c'est pas justement compliqué de, si jamais vous avez un fou rire, vous réussissez à reprendre, enfin que ça doit être plus compliqué qu'une pièce normale, entre guillemets, non?
C'est plus compliqué au début des répétitions, mais après, justement, les répétitions font que il faut ramener cette difficulté à quelque chose d'organique, à quelque chose... Il faut que nous, on réinvente le texte aussi, même si on le respecte. Donc là, ça y est, maintenant, on a répété, on est au moment de jouer, donc on n'est plus au moment de se concentrer sur les syllabes non plus. On a un petit peu dépassé
le stade.
Donc maintenant, on en est vraiment dans les relations, dans les rapports. Et Eric, je dois dire, il est assez fort pour nous mettre à la limite.
Eva.
Et la vie de troupe pendant 3 mois, comment ça se passe?
Bah là, c'est vraiment des gens sympas. Je vais les nommer parce que il y a Suzanne Clément, il y a Jérôme Robard. Moi, j'étais avec lui au conservatoire. En plus, les gens s'amusaient bien. Il y a des jeunes. Enfin, il y a Jean-Yves Rouen qui est un acteur merveilleux. Et après, ce sont des jeunes. Peut-être vous connaissez Roxane Durand.
Oui.
Voilà, Roxane Durand, Florent Hill et Simon Thomas. Et ils sont vraiment des acteurs dont on entendra parler, je suis persuadée, et qui donnent tout. Ils nous portent, en fait. Les valets, enfin, il y a un côté Downton Abbey, de toute façon, dans cette pièce. Il y a un peu les aristos qui décident que, bon, ils vont gérer la vie des valets comme ils l'entendent. Bon, bah, moi, comme je ne me marie plus avec toi, ma suivante va se marier avec ton valet. Puis, finalement, je change d'avis. Et eux sont soumis un peu à nos décisions. Et en fait, nos valets et suivantes sont vraiment... Super aidant, quoi. C'est Roxane Durand qui joue ma suivante. Elle me porte, quoi.
Downton Abbey en mieux, parce que dedans il y a Sylvie Testu. C'est au Théâtre Édouard VII en ce moment. Ma chère Sylvie, est-ce que comme moi vous avez été marquée par le film Danse avec les loups?
Oh oui, J'ai vu ce film il y a maintenant un certain nombre d'années. Ouais. Hein. Et oui, c'était, ça nous a tous fait rêver. Les images étaient sublimes. Elle, on voulait tous s'habiller en sco comme elle.
Moi, je voulais être Kevin Costner. C'est raté.
Et moi, je voulais voir Kevin Costner. Je voulais rencontrer Kevin Costner.
Justement, je vous propose de prendre la direction du sud-ouest pour retrouver le correspondant d'Europe 1 là-bas. Traverser la France avec un loup, enfin presque un chien-loup, c'est ce que s'apprête à réaliser un Landais. Pratiquement 2000 km. Belle promenade et vraie aventure. Bonjour Stéphane Place.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Alors, quelle mouche a donc piqué ce monsieur? Besoin de se dégourdir les pattes?
En fait, c'est lié au métier de Romain Vaude, cet habitant de Biscarrosse et comportementaliste et éducateur canin. Reconversion après des années dans la police, dans une brigade cynophile. Donc, grosse expérience de la relation d'un maître avec son animal. Et cette expédition de Dunkerque aux Pyrénées-Orientales, en totale autonomie, et début novembre en plus. Hein, oui, c'est-à-dire qu'il ne va pas faire très chaud. C'est pour faire passer un message assez simple. L'inactivité chez les chiens est la principale cause des troubles du comportement. C'est absolument essentiel de partager du temps avec son chien. Et va me le rappeler encore hier.
Bien sûr.
D'où ce projet, cette traversée du pays que Romain Vaude fera partager au quotidien avec des vidéos et un site internet.
Ça permettra de passer tous ces messages-là autour des activités de notre chien. Moi, mes chiens, dans ma vie de tous les jours, ils ont un rôle. Ils ont énormément d'activités parce que déjà, moi, ils travaillent avec moi dans mon métier, mais aussi ils ont un rôle au sein de ma famille, au sein de notre habitation. Les rôles, ça peut être transporter du bois avec nous, faire des courses avec nous, on a un sac à dos, voilà, ils portent nos courses avec nous, ils nous aident, quoi. Ils ont vraiment un rôle et qu'ils ont leur place avec nous dans la maison. On ne part pas forcément sur des activités ultra sportives, mais rien que des activités, des interactions avec ces animaux pour avoir un partage. Et moi, je pense que c'est la clé. Là, cet après-midi, par exemple, on va aller faire du paddle avec les chiens. C'est une activité, surtout dans notre coin, sur Biscarrosse, qui est vachement sympa à faire. Voilà, après, en fonction des régions, ça peut être de la rando, ça peut être des choses simples.
Du paddle avec
mais
son
non.
chien.
Oui, alors
bah,
ça,
si.
Déjà que c'est difficile de trouver l'équilibre tout seul, alors en plus, avec un chien à bord.
C'est pas totalement faux, mais ça fait rêver. La truffe humide dans les embruns, le poil dru. Je parle du chien, Mathieu,
ah oui,
pour le poil
ah oui,
dru.
J'ai eu peur, parce que tu trouvais que c'était un peu inconvenant vis-à-vis d'Eva. Oui.
Donc, avec son chien loup, Drax, c'est son prénom, Romain va traverser l'Hexagone pour bien démontrer la force du lien qui se tisse entre le maître et l'animal dès lors que l'on part des activités avec lui, pas juste celle qui consiste à trouver le bon réverbère en faisant le tour du quartier le soir, avec le pyjama qui dépasse un peu du manteau.
Ah, on sent le vécu chez vous, c'est ça.
Oui, j'ai croisé beaucoup, j'ai pas de chien, mais j'en ai croisé un certain nombre de propriétaires. Ouais. Donc c'est une activité, mais il faut pas que ça soit la seule, voilà.
Merci beaucoup Stéphane Place, on rappelle que vous êtes le correspondant d'Europe 1 dans le Sud-Ouest.
Je vais aller faire du paddle avec un chien, tiens,
calmez-vous,
ça m'attire.
Calmez-vous.
Europe 1.
Vous écoutez l'équipée sauvage, deux heures d'une compétition un peu folle dingue, mais enrichissante, entre les meilleurs journalistes d'Europe 1. Un seul vainqueur, votre culture générale. Et après une première partie très axée nouvelles technologies, les mélomanes seront heureux d'apprendre que nous allons maintenant parler musique avec deux nouveaux spécialistes. Bon, on aurait pu garder Jérôme Lacroix, qui lui aussi a de solides références musicales. Il le prouve un soir sur deux au Balto, après 4 ou 5 picombières.
Les chevaliers du Zodiac, toujours à la barre.
Mais oui, il faut rentrer maintenant, monsieur Lacroix, il faut rentrer.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Nietzsche parlait de gai savoir. Le fabricant de jouets Play School, qui se la pétait moins que Nietzsche, appelait ça plus modestement apprendre en s'amusant. Voilà l'objectif de l'équipée sauvage, deux heures d'une truculente compétition entre les meilleurs journalistes d'Europe 1, des enquêtes, des infos, des analyses et parfois aussi, quand le courant passe entre l'invité et moi, une rencontre. Comme hier avec la chanteuse Rose, pas du tout déstabilisée par mon humour leste. On est bien, mais on est un peu trop nombreux dans ce studio. On serait encore mieux juste Rose et moi. J'allumerai une bougie diptyque, je sortirai mon saxophone.
J'ai eu peur quand même.
D'abord le saxophone. Ah là là, Rose et moi, c'est toute une histoire.
Oh. Europe 1, 16h, 18h, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, l'équipée sauvage continue et ce mélange subtil de culture et d'humour, de légèreté et de profondeur. Dieu sait que c'était pas mon genre de faire parler les morts, Eva, mais il est évident qu'Audiard aurait adoré notre émission.
Qu'est-ce que vous voulez que ça me foute ? Ça m'indiffère totalement.
Non, là c'est mon Michou, depuis qu'il est mort, il est taquin, mais quelle joie en tout cas de se retrouver en compagnie aujourd'hui d'une invitée d'honneur particulièrement passionnante. Cinéma, théâtre, littérature, elle brille à tous les étages. Sylvie Testu est actuellement à l'affiche de l'Eurostratagème de Marivaux au Théâtre Édouard VII. Tout se passe bien pour l'instant, Sylvie ? Vous passez une bonne après-midi ?
Très bien, moi je suis ravie, je vais rester un petit peu avec vous, moi.
Oh bah j'espère.
Après,
bien.
Faudra que j'aille me maquiller, faire une comtesse.
Mettre vos habits de lumière. On continue de parler de la pièce, mais d'abord place à la compétition, on accueille deux nouveaux concurrents. deux redoutables compétiteurs. À ma gauche, elle est la caution jeune de cette émission. Elle est journaliste et blogueuse musicale. Angèle Châtelier est une fille éminemment rock'n'roll qui s'est rebellée contre son père, Gonzague Châtelier, qui n'écoutait que du baroque et qui lui avait demandé un jour qu'elle répétait dans sa chambre avec des potes.
Comment s'appelle cette guitare en forme de gros tourteau fromager ?
Une basse, papa, une basse ! Angèle. Ah, vous reconnaissez vraiment votre père. Visiblement, j'ai touché juste. Angèle, qu'allez-vous nous apprendre aujourd'hui, sachant que personnellement, je me suis arrêtée à Robert Charlebois à peu près.
Et bah, y a beaucoup d'artistes, de jeunes artistes, du coup, qui maintenant prennent un peu des objets du quotidien pour faire de la musique, et c'est assez incroyable.
Qu'entendez-vous par objet du quotidien ?
Un peu tout, Mathieu.
Un peu tout ?
Oui.
Mais pas des choses coquines ?
On sait pas.
Des choses coquines ?
Parce que j'ai vu le regard.
Il y a plein de choses à faire avec des choses coquines.
Alors, ça sera le premier nom que j'ai, Angèle. Si toutefois votre période d'essai est validée. À ses côtés, Sylvie, un journaliste ayant, disons, un peu plus de bouteilles qu'Angèle. Sa tête vous dit peut-être quelque chose, normal. Vous lui avez peut-être demandé du sel un jour puisqu'il a été votre voisin.
Oui, c'est vrai.
Alors attention, il est plus vieux qu'Angèle, mais il le vit bien. Pas vrai, Jean-Philippe ?
Comme disait Johnny, on ne vieillit pas, on grandit.
En plus, il imite Johnny sacrément bien quand même. Jean-Philippe Ballas, avant qu'Angèle se pointe, vous étiez l'expert rock d'Europe 1. Comment comptez-vous lui faire comprendre que c'est vous le boss ?
Je suis venu avec une basse. Pas n'importe laquelle, la basse des Clash, celles qu'ils ont cassées sur scène.
Comme ça, à froid, Sylvie Testu, une préférence sur les thèmes où vous n'avez pas le droit de voter pour Jean-Philippe Ballas parce qu'il a été votre voisin. Attention que ce soit très clair.
Mais c'était il y a longtemps, c'était il y a quasiment 20 ans,
il
c'était
avait
Boulevard
des cheveux.
De Clichy.
Ah oui, c'était à Pigalle. Ça.
Voilà, on habitait dans des tout petits ateliers très mignons avec un figuier juste
mignon.
Devant. Ouais.
Ah, c'est ça.
Et baroque.
Et en même temps, Sylvie Testu qui déménage tous les deux ans, vous avez beaucoup de chance d'être sa voisine à un moment donné de votre vie, quoi.
Vous avez vu, je parle très longtemps.
Super privilège.
Sylvie Testu, vous nous faites l'honneur de nous accompagner cet après-midi alors que vous jouez ce soir au Théâtre Édouard VII, L'Heureux Stratagème, une pièce de Marivaux. On entend beaucoup parler en ce moment, c'est le mot à la mode, de pièces ou de films feel good. Tout le monde veut aller voir des pièces feel good. Est-ce que cette pièce, écrite par Marivaux en 1733, peut être selon vous décrite comme feel good?
Oh, je pense que ce serait plutôt le contraire. Enfin, feel good,
oui,
parce
feel
que
good
vous, on
rire.
Rigole.
Voilà, c'est ça.
Voilà. Non, je pense que dans feel good, il y a un côté la vie est belle, tout est simple, et puis c'est on s'aime tous. Non, non, là,
ça,
c'est assez cruel.
Tout
on
est
rit.
Compliqué.
Le rire est cruel. On rit de ma souffrance, de celle de Doran, donc joué par Eric Almosnino, du personnage de la marquise et du chevalier qui arrive tel Don Corleone et qui finit, vous verrez. Les gens sont hilars.
On se retrouve tous dans la pièce, surtout Eva, avec toutes ses tromperies, ses manipulations.
Oh, les hommes aussi. Hein.
Oui.
Je ne sais pas. Non, vous, moi, vous verrez, non, ouais. Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr de me retrouver dans cette pièce. Mais ça a des vertus cathartiques, finalement. C'est un peu comme le théâtre antique, Marivaux.
Bah, ça a le pouvoir de ne pas tricher, en fait, sur le fait qu'on mélange parfois l'amour et le désir de possession. Alors, c'est étonnant que ça ait été écrit à ce moment-là. Mais c'est-à-dire que, moi, mon personnage, qui, à un moment, n'aime plus donc Dorante, il y a un moment, c'est quand même, ça lui appartient quand même. Il ne faudrait peut-être pas que quelqu'un d'autre le prenne. D'ailleurs, c'est une pièce qui a été écrite sur une sorte de, je ne sais plus comment on dit, mais une sorte de petite histoire. C'est le chien qui ne voulait pas manger le fruit qui était dans son jardin, mais qui ne veut pas que l'autre chien vienne le manger.
D'accord.
Donc il le mord.
Ah, c'est un bon résumé du pitch.
Voilà, en fait, de son essence, en fait. Mm. Donc ce n'est pas si sweet que ça, quand même, cette pièce. On en rit. Mais nous, ce qu'on fait, c'est très cruel.
On parle de cette pièce, on parle aussi des prochains films dans lesquels on va bientôt vous retrouver, Sylvie Testu. Mais d'abord, on a posé la question aux gens dans la rue, dans un périmètre assez étroit autour d'Europe 1, rassurez-vous. Connaissez-vous Sylvie Testu ? Ce n'est pas un micro-trottoir, on est bien au-dessus de ça. Hein. C'est un micro-trottrash, comme un micro-trottoir, mais pas monté. On a vraiment laissé tout ce que les gens ont dit.
Celle qui est toujours mal coiffée ?
Non, on n'a pas eu ça.
Sylvie Testu, c'est un peu drama-comédie.
C'est une jolie rousse.
C'est une actrice qui a l'air d'être à 150% dans ses rôles. Elle a aussi écrit des bouquins, je crois, que j'ai pas lus.
Ouais, elle est pas mal, je l'aime bien. Ouais. Elle a joué Françoise. Elle avait fait un rôle. Ça passe pas à la radio, là.
C'est une comédienne française qui fait d'excellents films, qui tourne dans d'excellents films, qui choisit bien ses rôles, et ce que j'aime beaucoup, oui.
On ne fait pas parler d'elle, elle n'est pas dans les magazines People. Je trouve que c'est une très très bonne actrice. Une femme très sensible et à fleur de peau. Moi, je dirais qu'elle a un petit grain de folie, quand même. Un peu barrée, quoi. Non.
Un peu barré.
Je vais aller habiter là où vous êtes allé faire les micro-trottoirs.
C'est là, c'est dans le 15e.
Je vais venir.
Un nouveau déménagement.
Je les aime tous.
Est-ce que vous vous définiriez comme quelqu'un d'un peu barré ou pas ? Ça, c'est une image.
Oh non, moi, je crois pas.
Vous êtes quelqu'un plutôt carré ?
Il faut avoir un peu de folie, je pense, pour faire ce métier. Mais non, je crois que je suis assez. Cartésienne. Bon, alors, il paraît que les fous disent qu'ils ne sont pas fous, non, je sais tout. De toute façon, quoi que je dise, on dira, bah non, c'est le contraire.
Oui.
Je le sais.
Vous êtes une maman aujourd'hui, vous avez deux enfants. C'est bien ça ? Je demande parce que je me suis trompé l'autre jour. Hein. J'ai dit, vous avez deux enfants, il en avait cinq, le mec. Vous dites, je ne suis pas une mère qui interdit à ses enfants de dire des gros mots. En revanche, je ne veux pas qu'ils parlent mal le français. Ça veut donc dire que vous supportez, maman, ça m'emmerde pour l'école, je dois lire ce roman dont je t'ai parlé. En revanche, maman, ça m'emmerde pour l'école, je dois lire ce roman que je t'ai parlé. La privée de
dessert. Ça passe pas. Voilà.
Mais le m'emmerde.
Mais même
pas,
s'il enlève le m'emmerde.
Ah, même s'il
c'est
enlève.
Kiki sans le m'emmerde, ça marche pas.
Elle est à l'affiche de l'heureux stratagème actuellement au théâtre Édouard VII à Paris. Sylvie Testu passe l'après-midi sur Europe 1.
Europe 1.
Eva Rock, Angèle Châtelier et Jean-Philippe Ballas sont à mes côtés. L'équipe est sauvage continue, deux heures placées sous le signe de la curiosité et de la joie de vivre. À suivre, il est la mémoire du rock.
Well, it's one for the money.
Oui, ça remonte loin. Depuis plusieurs années sur l'antenne d'Europe 1, Jean-Philippe Ballas nous révèle les coulisses des grands moments du rock, comme l'année dernière dans La Matinale. Cette info sur les débuts de Sting qui n'avait pas laissé indifférente Julie, la voix d'Europe 1.
À sa fenêtre, il voit des prostituées qui déambulent sur le trottoir. Il y a aussi cette affiche, Cyrano de Bergerac. Sting imagine une fille de la nuit, elle s'appellera Roxane.
Et non, il n'était pas une star à l'époque s'il y avait des putes en bas de son hôtel.
Et oui, dans les coulisses du rock avec Jean-Philippe Ballas aujourd'hui à l'occasion des 40 ans de la célèbre photo des Clash avec la basse cassée, il nous dévoile de nouveaux secrets de rocker. A tout de suite.
16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, l'équipe est sauvage continue. Et dans un monde ubérisé, vous notez votre livreur de sushi et votre chauffeur de taxi. Il était temps que vous puissiez noter aussi vos journalistes. Étonnamment, depuis, c'est la guerre à Europe 1. Heureusement, je sens que nous allons avoir droit maintenant à un beau passage de flambeau entre Jean-Philippe Ballas, le spécialiste rock historique de la station, et Angèle Châtelier qui semble destinée à le remplacer un jour. Oh, pas tout de suite, hein, lorsqu'il partira à la retraite dans 3-4 ans. Beau joueur, Jean-Philippe Ballas, en tout cas, ne la prend pas du tout de haut.
Que tu sois fan de Bon Jovi, c'est ta différence et ça t'appartient, je ne te juge pas.
Et il n'est pas du tout sûr de sa victoire face à elle, puisqu'il me confiait durant la pub qu'il allait, je cite, la...
Oui, un peu comme une étagère suédoise.
Oui, bravo Jean-Philippe pour votre fair play. Je vous laisse nous parler de cette photo des Clash, 40 ans après.
Je ne suis pas venu seul aller entrer les copains. Parce que vous connaissez tous cette pochette, le bassiste des Clash, Paul Simonon, qui fracasse littéralement son instrument sur scène à la fin du concert. Image devenue iconique, comme on dit, pour se donner des grands airs dans les livres d'histoire. Alors moi, personnellement, c'est une image qui m'a toujours un peu fasciné et effrayé. Fasciné parce qu'elle côté quand même, j'embête le système, voilà.
J'embête le système. Vous êtes vraiment, mais je suis vraiment rock jusqu'à l'os. Voilà. Il a pas peur des mots, hein. Il embête le système.
Et en même temps, c'est une image qui m'a toujours un peu effrayé parce que ça coûte cher. Cher, une basse.
Ah oui, moi, c'est la première réflexion que je me fais. Je suis vraiment baroque.
Et là, donc, je découvre, les amis, que cette photo a 40 ans. C'était le 21 septembre 79. C'était dans un club à New York. C'était le Palladium. Et je vous propose à cette occasion un petit questionnaire. Vous pouvez jouer aussi à la maison. Alors, première question, est-ce que vous savez qui a pris cette photo?
Aucune idée.
Philippe Manœuvre.
Eh ben, dans un monde de mecs rock'n'roll, eh ben, c'est une femme qui est derrière l'objectif. Ouais. Elle s'appelle Penny Smith. Elle vit toujours aujourd'hui. Elle vit à Londres. Alors à l'époque, elle a 30 ans environ. Elle suit des Clash comme ça en tournée. C'est déjà une photographe très réputée. Elle a look un peu Patti Smith, avec les longs cheveux noirs, le costard noir en toutes circonstances. Alors pour la petite histoire, elle n'aime pas trop cette photo au départ parce qu'elle la trouve un peu prise à l'arrache, un peu floue, un peu mal cadrée. Et c'est Joe Strummer, le chanteur des Clash notamment, qui va insister pour prendre cette photo et la mettre en pochette de l'album London Calling. J'ai une deuxième question. Est-ce que vous savez ce qu'est devenue la basse en question?
Elle doit être chez un collectionneur et elle doit valoir $1 million.
Dans un musée, non?
Pas mal, Eva. Elle existe toujours. Alors, est-ce que Paul Simonon, il a été pris de remords à la fin du concert et qu'il a récupéré les miettes de la basse? Eh bien, elle est effectivement aujourd'hui sous cadre et elle est exposée régulièrement à travers le monde. Elle le sera très bientôt à Londres, au Museum of London, à partir du 15 novembre prochain, puisqu'on fera une expo pour les 40 ans du London Calling des Clash. Alors, je ne sais pas si vous imaginez quand même, si à l'époque on avait dit à Paul Simonon, quand il est sorti de scène en cassant sa basse, t'inquiète pas, ta basse elle est toute cassée, mais je te promets que dans 40 ans, elle sera exposée au Museum of London, je crois qu'il n'aurait pas cru. Je pense que Margaret Thatcher, elle aurait fait une attaque aussi, parce que oui, c'est quand même tout le symbole de cette photo, c'est la jeunesse qui est en rébellion à l'époque contre le conservatisme. Et puis j'ai une dernière question, c'est le bassiste, Paul Simonon, qu'est-ce qu'il devient?
Eh ben, aujourd'hui. Il est de droite. Il a pris sa carte au Tea Party.
Alors, il est toujours assez rebelle, mais il a 63 ans aujourd'hui. Faut pas trop lui parler de cette histoire, hein, Paul Simonon.
Pourquoi?
De basse, parce que ça le saoule un peu. Je pense que effectivement,
parce qu'on le retient que de ça de lui. Finalement.
Il a donné des milliers d'interviews. Alors aujourd'hui, il dit qu'il est peintre surtout. Il joue toujours de la basse. On le voit notamment en concert avec Damon Albarn sur plusieurs de ses projets. Et puis, il promène son chien.
Paul Simonon, il l'a dit au journal Le Monde cet été, et moi j'aime bien cette idée qu'à 20 piges, on puisse fracasser une basse sur scène, et que 40 ans plus tard, on promène son chien tranquille.
Effectivement, c'est une belle leçon de vie, Jean-Philippe Ballas.
Ah, Sylvie Testu est pas...
Sylvie Testu préférait l'époque rock 1000%. Que l'époque chien, visiblement, hein, Sylvie.
Moi, ça peut m'angoisser, cet arrêt. Mais bon, chacun voit comme il veut. Hein. Moi, j'aime bien ce moment où on a l'impression qu'on va jouer pour la dernière fois. Quoi. Il y a un côté, c'est vrai, rebelle là-dedans, mais il y a un endroit où... À chaque fois que vous montez sur scène, c'est ça qu'ils font les grands artistes, c'est qu'ils ont l'impression que c'est la dernière fois. Ils cassent tout, bon, ben, on verra demain où on se procure la nouvelle. Bon, ils savaient très bien, mais j'aime bien quand même.
Il y avait peut-être un petit peu de drogue aussi là-dessous, hein, on ne sait pas.
Alors
pas
ça, moi, j'aurais jamais imaginé une chose pareille.
C'est vrai que ses propos n'engagent que moi, si vous avez raison. Est-ce qu'il faisait du bruit, Jean-Philippe Ballas, quand il était votre voisin? Est-ce que vous avez déjà dû appeler les flics pour tapage nocturne? Écoutez du rock.
J'imagine que moi, certainement. Non. J'en faisais certainement plus que lui.
Dites-vous tout, c'est le moment. Là,
à l'époque, Sylvie Testu était déjà très connue, elle tournait énormément, donc on ne voyait
pas
trop.
Vous étiez aussi peu connue qu'aujourd'hui.
Moi, j'étais toujours pas connue.
Le pire, c'est que c'est vrai, je suis rarement chez moi.
Ah oui,
vous pour vous dire comme je m'ennuie vite.
Et c'est quoi cette histoire de bougeotte? Vous déménagez vraiment souvent, mais à quel rythme?
Tous les deux ans.
Tous les deux ans, c'est énorme.
C'est infernal. Je sais exactement quel objet j'ai chez moi parce que je les mets dans des caisses, je les sors, je les mets, je les sors. Je sais tout.
Vous savez ce que Freud disait des gens qui déménagent tout le temps?
Non.
Moi non plus, mais je suis sûr qu'il disait un truc. Elle est à l'affiche de l'heureux stratagème au Théâtre Édouard VII à Paris. Une pièce de Marivaux. Sylvie Testu, notre invitée jusqu'à 18h.
Europe 1.
À suivre dans l'équipe est sauvage. Selon une étude, on perd désormais en moyenne pas moins de 17 minutes chaque soir devant l'écran d'accueil de Netflix et consorts simplement pour choisir un programme. Eva Rock vous fait gagner un temps précieux en vous disant clairement quoi regarder. Enfin, clairement...
Ah, ça y est.
Parfois, il faut quand même un petit décodeur.
C'est sur France 5, amateur 115.
Oui, les meilleurs programmes démarrent souvent dans l'entour de 20h, chouant de 15 ou chouant de 14, ça dépend. 17 minutes de gagner, ça sera juste après Mika sur Europe 1.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h, Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, 2 heures pour oublier tous vos soucis en boostant votre culture générale. Chaque après-midi, les meilleurs journalistes d'Europe 1 s'entretuent dans la joie et la bonne humeur, comme dans un film de Tarantino. Nous sommes au cœur de la compétition, là, vraiment au cœur. Qui sera élu chroniqueur du jour? Vous votez via Twitter, mais la voix de notre invité d'honneur comptera triple. Aujourd'hui, c'est l'immense comédienne Sylvie Testu. Au palmarès incroyable, elle a eu le prix Michel Simon, elle a eu 2 Césars, elle a été la voisine de Jean-Philippe Ballas, qui nous accompagne. Elle est à l'affiche de la pièce L'heureux stratagème de Marivaux au Théâtre Édouard VII à Paris. Une pièce, Eva, que vous connaissez par cœur, je suppose.
Oh, la scène avec le chien.
Bien. Oh, Sylvie, dans cette pièce, vous incarnez la comtesse, une femme libre. Pas franchement en rôle de composition pour vous. Vous avez toujours été très libre au conservatoire, par exemple. Il paraît que vous étiez excessivement libre au conservatoire. Vous avez failli être virée, même.
Oui. Non, mais en fait, j'étais tombée sur des enseignants qui étaient excessivement peu libres eux-mêmes et qui avaient un désir de nous remettre dans la position d'élève. Et je crois que j'étais plus scolarisable, on va dire ça très simplement.
On vous faisait faire la poule, c'est ça? Vous ne vouliez pas faire la poule, vous vouliez jouer Rublas.
Le miroir, la brosse à cheveux, bon. Ou alors me proposer de... Non, je vous jure que c'est vrai, ouais. Je ne nomme personne, mais ils se reconnaissent à chaque fois. Mais on m'a proposé même de ne pas jouer dans les théâtres, mais dans la rue, je n'ai pas besoin de toi, en fait. On peut jouer dans la rue, moi je vais au concert parce que je veux jouer dans un théâtre. Ouais, mais c'est surfait, ça, les théâtres. Mais peut-être ta mise en scène, elle sera bien dans un théâtre. Il y avait un petit comme ça, un petit... J'étais peut-être journaliste avant l'heure d'investigation. Oui. C'est-à-dire que je disais, mais pourquoi toi, tu me dis à moi de faire différemment de ce que tu fais, toi? Voilà, ça c'était compliqué.
Alors Sylvie, jouer Marivaux tous les soirs au Théâtre Édouard VII, c'est bien joli, mais ça pose quand même un énorme problème. Vous ne pouvez plus regarder Netflix. Or, ne faites pas celle qui n'est pas concernée par la question. Selon une étude de l'Université d'Oxford, on perd en moyenne 17 minutes chaque soir à bloquer devant l'écran d'accueil de Netflix ou toute autre plateforme VOD à laquelle on est abonné, tant l'offre de films est pléthorique. Heureusement, pour y voir plus clair dans tout ça, il y a désormais notre rubrique 17 minutes de gagner. Eva Rock, qu'est-ce qu'on regarde ce soir?
Alors je vous emmène découvrir Succession. Saison 1 et saison 2 sont disponibles sur OCS. Alors l'histoire, elle est très simple. Logan Roy est un patriarche à la tête de Westar Royco, c'est un conglomérat médiatique. Il doit prendre sa retraite pour laisser la place à ses fils. Enfin ça, c'est ce qui était prévu. Le vieil homme décide de changer d'avis. Il va rester à la tête de son empire pendant que le reste de la famille, évidemment, va se déchirer. Alors exemple des relations entre le père et les fils.
Pourquoi on ferait pas de l'info à tous les niveaux?
Oui.
Je vais te le dire, King Jong, papa, parce que ça marche pas comme ça aux États-Unis.
En fait, tu adores dire aux gens ce qu'ils doivent penser, pas vrai?
Me fais pas chier. Pourquoi on nous regarde? Parce qu'on vend pas de la merde aux gens. Non, pas question de leur bourrer le crâne de patriotisme, de monospace Volvo ou de tolérance LGBT à la con.
D'un point de vue administratif, c'est horrible. Entre la justice, le FCC et les lois antitrust, on serait emmerdés pendant des années.
Non, la télé, ça devient n'importe quoi. Il faut que ça change.
Alors dit comme ça, on pourrait croire à une version moderne de Dallas, un truc de famille, mais alors pas du tout, c'est absolument jubilatoire, parce qu'en fait, chaque protagoniste est détestable à souhait et en même temps très attachant. Il n'y a que des coups bas, des petites mesquineries, des flots d'insultes, comme vous venez un peu d'entendre avec le père, autre trahison, mais avec une part de comédie qui va pouvoir sans doute vous faire hurler de rire devant votre écran, notamment parce que tous les personnages font preuve à un moment donné d'une bêtise crasse. Je n'ai jamais vu ça, mais moi ça me fait énormément rire. Et Dieu sait si je m'y connais en bêtise crasse. Merci de travailler avec vous tous les jours, forcément.
Mais je vous aime.
Voilà. Série d'autant plus réussie, en fait, vous le verrez, que derrière ce théâtre humain, ce sont bien les questions encore de pouvoir, de la propriété, de l'hérédité, mais aussi des méfaits de l'ambition qui sont abordés. J'ai eu un coup de cœur pour ces deux saisons, Succession, à voir sur OCS ou à acheter en VOD si vous n'êtes pas abonné à OCS.
Merci, 17 minutes de gagner, c'était Eva Rock. Europe 1. À suivre dans l'équipe sauvage, la grande compétition des journalistes d'Europe 1. La tension monte encore d'un cran. Nous entendrons une journaliste qui fait l'objet d'une réclamation déposée par son collègue Nicolas Carreau, expert en littérature. Selon ce dernier, elle aurait la dernière fois volé les 3 points qui lui revenaient de droit à lui. En cause, un invité trop gentil qui, informé du classement d'Angèle, aurait voulu lui donner un coup de pouce, lésant injustement Nicolas Carreau.
On est d'accord que je me suis fait voler ma victoire, là.
Oui, entre Dave et lui, ce matin, tu te fais voler 2 fois ta victoire pour des motifs humanitaires. Mais
ouais. Et je l'ai mérité.
Ouais. Tu l'as mérité.
Et oui, le fair play est une valeur centrale de l'équipée sauvage. À tout de suite.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipée sauvage. Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, l'équipée sauvage se poursuit. 2 heures de bonne humeur, certes, mais portées quand même par des professionnels, tous titulaires d'une carte de presse en cours de validité. Joie de vivre donc, mais surtout rigueur, précision et clarté, grâce notamment à ma complice Eva Rock, dont chaque intervention est millimétrée.
Que se passerait-il, comme le repli identitaire, casting de luxe, Roche-Dizem, et verdict à l'issue de ces épisodes, quelle réussite.
Faut légitimer. Non, Pascal Légitimus, c'est pas le mot que je cherchais.
Et là, Sylvie Testu, je sais ce que vous vous dites, au conservatoire, cette femme aurait fait un malheur.
Mais quel
Sylvie Testu, vous êtes actuellement à l'affiche de l'heureux stratagème au théâtre Édouard VII où
elle
votre diction,
suite,
elle, est
Sylvie
parfaite,
Testu.
Évidemment. Mon petit doigt me dit qu'on va bientôt vous retrouver au cinéma. Le film de Michel Denisot, dont on parle beaucoup, vous êtes dedans.
Oui.
Et toute ressemblance.
Alors, je ne l'ai pas encore vu, mais en revanche, vu le scénario, vu ce qu'on a tourné, je pense que le film lui ressemble. C'est-à-dire, il est hyper élégant. En même temps, c'est sombre, avec beaucoup d'humour. Il a un humour assez chic, un peu à l'anglaise quand même, Michel. Et je pense que son film lui ressemble, de ce que j'en ai vu.
Face à vous, Sylvie Testu, une jeune femme encore plus dépravée que la comtesse que vous incarnez au théâtre Édouard VII. Elle avait tagué No Future et Pretty Bed sur les murs de sa chambre d'ado. Sa devise ?
N'oubliez pas de ne pas être sage parce que le vice, ça a du bon.
Le vice, ça a du bon. Voici notre chroniqueuse blogueuse musique, Angèle Châtelier. Vous avez actuellement 3 points. Un recours a été déposé, vous le savez, mais pour l'instant, vous les avez. Avec quel sujet comptez-vous gagner cette fois à la loyale ?
Il y a un jeune entrepreneur dans l'audiovisuel qui s'appelle Simon Magimel qui a créé un morceau avec pour seule base des bruits de métro. C'était ambitieux, c'était celui de Toulouse. Alors je sais que nous sommes en plein après-midi, mais vous allez voir, grâce à lui, on se sent un peu comme en discothèque.
C'est pas mal. Avec un petit acide. À consommer avec modération, évidemment.
Non, à consommer pas du tout.
Mais pardon, l'acide, non, pas du tout. C'est illégal. Évidemment.
Ce morceau s'appelle Métro. Et si on prête l'oreille, on entend effectivement la voix qui annonce le passage du métro, le son de celui-ci qui démarre. C'est une belle prouesse technique, un micro et hop, de la musique.
Attendez, tout dedans, là, n'est que des bruits de métro.
Tout à fait.
C'est dingue, hein.
C'est pas mal, Angèle.
C'est pas mal.
C'est pas mal. Alors, on est sur la ligne 13, là, on est bien, on est tous collés, on peut entamer un petit pogo. Mais c'est pas le seul artiste à avoir fait des objets ou bruits du quotidien de vrais morceaux.
Non, il y a aussi l'immense icône pop, Kate Bush. Dans son morceau aussi iconique qu'elle, Babouchka, elle utilise des vers brisés pour ponctuer son morceau. Alors plus récemment, c'est l'artiste Jacques qui a fait des objets du quotidien ses muses. C'est un musicien étonnant, un peu bizarroïde, dont la musique est parfois déconcertante.
Vous l'aurez bien.
Voilà, et alors il a créé un morceau en live qui s'appelle « Faune aux choses ». Sur sa table, on retrouve une toupie, une feuille de papier, un vélo, un jeu d'échecs, une carafe d'eau. Autant d'objets qu'il frotte, qu'il tourne, qu'il gratte pour produire des sons qui l'accompagnent avec sa table de mixage.
Ah oui.
C'est pas mal quand même.
Oui, mais cela dit, peu, une petite ambiance pissotière aussi, urinoire,
c'est
un peu gênant quand même, un petit peu voilà.
Un petit peu penser à la même chose.
Ouais. Ouais.
Alors, sa musique détonne, fascine ou énerve, elle fait penser aux plus grandes vidéos d'ASMR, hein. Vous savez peut-être, c'est cette pratique qui consiste à stimuler nos sens, à nous relaxer à l'aide d'objets parfois loufoques, croquer un cornichon, essuyer une râpe à fromage, susurrer des mots doux dans un micro doucement de manière lancinante.
Vous êtes vraiment d'une grande perversité quand même, Angèle, hein, parce que croquer des cornichons et essuyer une râpe à fromage...
Il y a beaucoup d'adeptes d'ASMR comme ça, et oui.
Et Jacques... on les rencontre sur Tinder, on est par exemple passion.
Jacques, lui, dans ce... Je ne raconterai pas ce qui m'arrive. Jacques, lui, dans son album appelé Sous un spiff, fait de tout avec n'importe quoi, et le nom de son premier EP est équivoque et décrit bien son art puisqu'il s'appelle Tout est magnifique. Bah oui, tout est de la musique.
Eva, vous m'avez l'air de connaître toutes ces pratiques. Et
oui,
sa
mère, oui, j'adore. Mais j'imagine Georges Brassens en train de chanter sur cette musique, Sylvie Testu, parce que je sais que
ça
vous l'imitez très
une belle
bien.
Rencontre.
Non, j'imite une chanson. Non, je me suis moquée beaucoup dans mon enfance d'une chanson, parce que je trouve qu'il chante avec la bouche mal, mais là, maintenant, je rigole, je ne peux pas y arriver. Si vous le faites. On ne peut pas plus bravo.
C'est tout Georges. Il est là, il se dresse devant nous. C'est vrai qu'il avait cette façon. Et c'est étonnant. Et Georges Brassens pourrait rencontrer d'autres époques, vous savez.
Mais oui, mais c'est pour ça que je pensais à la musique électro, sincèrement.
Mais par exemple, si Georges Brassens rencontrait la Compagnie Créole, qu'est-ce que ça donnerait?
C'est presque trop particulier.
C'est vrai. C'est tout un concept. Et nous avons le temps, me signale-t-on en régie, car ils sont vraiment très forts en régie, pour la question vache de l'autre chroniqueur. Là, il va s'en donner à cœur joie. Il va s'en donner à cœur joie, Jean-Philippe Ballage. Je peux vous dire, il va vous défoncer.
C'est pas une question, c'est une petite mise au point, parce que ça date pas d'hier quand même, les bruits du quotidien dans la musique. Non. J'ai un exemple en 73. Vous reconnaissez ou pas?
Ah, Pink Floyd.
Oh oui.
Oui, Money.
La caisse enregistreuse de Money.
Effectivement.
Ah, je me souvenais pas de ça.
Comme quoi, le papy du rock a encore gagné.
Il essaye de tout m'apprendre.
Dans tous les domaines, ça sera en antenne. Votre chronique, Angèle, mérite-t-elle 3 points, 2 points, 1 point ou même 0 points, comme le suggère à l'instant par SMS Jean-Philippe Ballas? La réponse ne va plus tarder. Une fois de plus, c'est notre invitée qui tranchera dans le vif. Elle est actuellement à l'affiche de l'Eurostratagème au Théâtre Édouard VII à Paris. Sylvie Testu est avec nous jusqu'à 18h.
Europe 1.
Ah, mes incorrigibles agneaux, je vous vois rentrant chez vous dans votre Opel Vectra, sifflotant gaiement, avec cette impression factice du devoir accompli. Vous avez terminé le dossier que j'irai récupérer les enfants à l'école, mais oups, vous avez oublié de faire les courses pour ce soir. Heureusement qu'il y a désormais Délices in Extremis, la rubrique qui vous sauve la mise avec chaque jour une recette rapide, facile et qui en jette. Notre expert gastronomique Olivier Pouls arrive, et avec lui le mot expert n'est pas galvaudé. Il le prouvait hier encore avec ce scoop Europe 1.
Je vous proposais de faire du riz sauté. Bon, il faut quand même la base, c'est le riz.
Eh oui, à tout de suite, mon expert.
L'équipe est sauvage sur Europe 1, 16h-18h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Europe 1, l'équipe est sauvage continue, une véritable bataille de chroniques. Chaque après-midi, les journalistes de la rédac s'affrontent au service de votre culture G. Un seul sortira d'ici sur un petit nuage, coiffé de la couronne de chroniqueur du jour. Un seul pourra narguer ses rivaux en se baladant dans les couloirs d'Europe 1 en tenue d'Adam, en chantant
« Eh oui, mais je suis chez moi, et chez moi, je me balade à poil, si je veux. »
Pour le bonheur de toutes et le confort visuel de tous, espérons que ce soit Anissa Mbida qui gagne.
C'est moche.
À nos côtés aujourd'hui, une invitée arbitre qu'on adore, la comédienne multi-césarisée et multi-talentueuse Sylvie Testu. Sylvie, vous êtes actuellement à l'affiche de l'heureux stratagème de Marivaux au Théâtre Édouard VII à Paris. La pièce a été écrite en 1733. Comment Ladislas Chola, le metteur en scène, a-t-il fait pour la mettre au goût du jour? Car c'est le cas.
En fait, il a inventé beaucoup de violence dans les rapports. Que nous, on soulève pour en faire une comédie. Mais de toute façon, le texte est déjà drôle parce qu'il s'oppose entre une personne qui demande quelque chose et quelque chose qui lui refuse. Quelqu'un qui assène une vérité et quelqu'un qui lui prouve le contraire, déjà, de toute façon, c'est drôle. Donc lui, il a beaucoup travaillé, il a beaucoup insisté sur les rapports, par exemple, avec la marquise, avec Suzanne Clément. Il a voulu que ce soit un combat. Parce que c'est vrai, les rapports amoureux, c'est pas toujours que de la tendresse. Il y a un peu une prise de pouvoir de l'un sur l'autre, même si on s'en défend.
Sylvie Testu, on ne se connaît pas, mais j'ai l'impression que c'est jubilatoire ce rôle. Et que, quelque part, des acteurs en promo, on en a beaucoup, mais j'ai l'impression que, comme disent les jeunes, vous kiffez la pièce, mais
à
assez
fond.
Veugras. Oui, je suis jeune moi aussi. Oui, oui.
Bon, alors, comme je dirais à mes enfants, là, il y avait beaucoup de gros mots dans la même phrase. Un par phrase, ça me va. Deux sur quatre mots, ça me fait beaucoup.
Alors, Sylvie Testu, bientôt, on va vous retrouver au cinéma aussi dans un film. On parlait de celui de Michel Denisot, mais vous êtes aussi dans un autre film qui arrive, le nouveau James Hutt, réalisateur des Brises de Nice. Ça s'appellera Rendez-vous chez les Malawa. Ça sonne très bien, hein, ouais. Rendez-vous chez les Malawa. C'est une sorte de parodie de Rendez-vous en terre inconnue.
Oui, c'est une parodie de ce genre d'émission, sauf qu'à la place d'une seule personne, on en invite quatre. Quatre personnes qui ont un ego un peu surdimensionné. Je ne sais pas pourquoi on a fait appel à moi. Et donc ces quatre personnes partent en imaginant en fait que tout est truqué et qu'ils vont dormir dans des grands hôtels, que tout va être bien. Quoi.
Ah oui, quatre stars, comme
et
on
en fait,
imagine.
Ils partent réellement, comme on part, moi qui ai participé à cette émission, ouais. Je peux vous dire que quand on vous filme en train de dormir par terre, vous avez vraiment dormi par terre. Vous ne sortez pas d'un 5 étoiles. Hein.
Vous l'avez fait, Rendez-vous en terre inconnue, mais vous êtes parti où ?
Je l'ai fait au Tchad.
Vous êtes bien comporté avec les locaux.
Ben j'espère.
quel souvenir vous en gardez de cette expérience ?
Un souvenir sublime. En revanche, moi j'étais un peu angoissée au départ, c'est ce que j'avais dit un peu à la production et à Frédéric Lopez. J'avais dit, écoute, il me semble que je suis avenante, mais je n'ai pas été éduquée à me transformer au profit de l'autre. Donc je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne sais pas dire, oh les petits enfants, j'y arriverai pas. Et en fait, ils m'ont emmenée dans le désert. D'abord, je ne connaissais pas le désert, parce que moi, j'ai pas mal voyagé quand même. Et avec des gens surtout hyper, hyper forts, quoi. Donc en fait, il y avait une dame qui était là, qui était un peu la même que moi, mais c'était une Africaine, quoi. On rigolait des mêmes trucs. Mais c'en était troublant. C'en était assez étonnant, quoi. Donc c'est vrai que j'ai vécu un bon moment. Il vous faut deux jours quand même pour accepter.
Oui.
Quasiment tous les acteurs, toutes les actrices qui ont fait cette émission reviennent changer. En tout cas, ils ont vécu tous un grand moment. Bruno Solo nous en a parlé aussi.
Oui.
C'est toujours un grand moment. Lui, on l'imagine bien, Rendez-vous en terre inconnue chez les Chinois. Ça pourrait être un prochain numéro de Rendez-vous en terre inconnue intéressant. Olivier Pouls arrive. Elle est à l'affiche de l'heureux stratagème au Théâtre Édouard VII. Sylvie Testu est avec nous jusqu'à 18h.
Europe 1.
Et Sylvie, d'après mes informateurs, vous serez ce qu'on appelle... une bonne vivante. À la question sur une île déserte, qu'emporteriez-vous ? Vous avez répondu un camembert bien coulant. Je crois que vous allez adorer Olivier Pouls. Son coup de fourchette est impressionnant, même à l'heure du goûter.
La tête de veau, c'est pour moi.
Oui, c'est pour lui, oui. Pas pour nous, oui. Chaque jour dans Délices in Extremis, Olivier Pouls vole à la rescousse des étourdis qui ont encore oublié de songer au dîner de ce soir. Depuis qu'il officie, Deliveroo accuse une chute de 40% de son chiffre d'affaires. Aujourd'hui, il nous explique comment concocter Fissa de délicieuses crêpes de pommes de terre, juste après Sia, Unstoppable sur Europe 1.
16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
L'équipe est sauvage continue 2 heures en équilibre instable sur ce fil qui sépare l'information rieuse du gros dérapage. Un dérapage auquel n'a pas échappé hier notre chroniqueur gastronomique. Olivier Pouls, malgré un freinage d'urgence de dernière minute quand il a vu le panneau CSA clignoter devant lui, mais hélas, il était déjà trop tard.
Je vous proposais de faire du riz sauté. C'est un plat qu'on trouve dans toute l'Asie avec autant de versions pratiquement que d'asiatiques, c'est dire.
C'est presque raciste.
Mais non, mais pas du tout. Bon, ils sont nombreux, et c'est pas moi qui ai inventé qu'il y ait 1 milliard 400 millions de Chinois quand même.
Ils sont nombreux, c'est pas moi qui l'ai inventé. Aujourd'hui, dans Délices in Extremis, votre recette de dernière minute pour bluffer vos proches, les crêpes de pommes de terre. Et arrêtez-moi si je me trompe, Olivier, mais il y a quasiment autant de crêpes de pommes de terre qu'il y a de bretons. Oui. On peut le dire.
Mais ils sont moins nombreux.
Ils sont moins nombreux.
Mais alors, détrompez-vous.
Comment
pas
ça
de chance, j'ai décidé de reporter mes crêpes de pommes de terre parce que ce matin, en me levant, en lisant une interview que Sylvie Testu avait donnée il y a quelques années au Monde, je crois.
Genre il bosse.
J'ai lu que vous étiez dingue de fromage et qu'à une époque de votre vie, vous ne vous nourrissiez pratiquement que de fromage.
Oui, c'est vrai. Oui, et même ma mère m'avait conduite chez le pédiatre qui m'a dit « Bon, bah, essayez de lui donner une banane, elle aura à peu près tout. » Moi, j'ai donc du camembert et
camembert
des bananes.
Et bananes.
Sympa. Et puis, j'aime plus les bananes.
Mais par contre, le camembert, oui.
Ah oui. Ah, ouais.
Et donc, je me suis dit « Paf réactivité, faisons une recette avec
vous
du fromage. »
Vous êtes dit « Paf réactivité » ?
Exactement.
C'est intéressant comme phrase.
Et tout de
bien
suite,
construit.
Donc, j'ai imaginé cette recette de camembert rien que pour vous. Tiens.
Alors, c'est quoi ?
Quelle merveille.
Un feuilleté de camembert.
Oui. Vous auriez pu le faire, ça aurait été encore mieux.
J'ai failli, mais le temps m'a manqué. Mais franchement, j'étais à deux doigts.
La prochaine fois. Faites-nous saliver.
Donc, il vous faut pour ça un beau camembert, mais on est d'accord, on ne parle que de camembert au lait cru.
Évidemment. Oui,
tous les autres, les camemberts au lait pasteurisé, industriel,
oui,
etc.,
voilà.
On s'en débarrasse.
On les donne à nos enfants.
Moi, aux Américains.
Ça passe.
Laissons-les aux Américains. Ou aux Chinois.
C'est écrit bio. C'est écrit bio en énorme. Ça n'a pas de goût, mais ils adorent.
C'est vrai qu'ils sont particulièrement dégueulasses, les camemberts bio, là.
Mais industriels.
Il y a certaines marques industrielles.
Ils sont bio, mais ils sont au lait pasteurisé.
Il y a des trucs bio qui sont bons.
Bien sûr.
Mais il y en a d'autres, oui, voilà.
Bon, bravo Camembert.
On commence à s'engueuler.
C'est quand même la base. Une pâte feuilletée. Alors, quelques oignons, enfin un bel oignon, quelques lardons, une pomme de terre, un tout petit peu de thym et un œuf.
J'aime déjà tout.
Voilà, bah, alors on va faire tout simplement une petite fricassée avec nos oignons émincés qu'on va faire revenir dans un peu de beurre. On va rajouter nos lardons et on va à côté de ça cuire nos pommes de terre qu'on aura au préalable épluchées.
Quel type de pommes de terre, Paul ?
On prend, moi j'aime bien les petites rates. Ah. Voilà, des rates parce que ça, c'est une pomme de terre à chair ferme. Alors
on va vous laisser tous les deux.
Et ensuite, on va prendre notre camembert, on va le couper en deux dans le sens de la hauteur et on va farcir notre camembert avec des rondelles de pommes de terre et ensuite nos petits lardons avec les oignons qui vont
être. La vache.
Et on repose l'autre moitié du camembert, on prend la pâte feuilletée et hop, on emballe le tout.
Hein, tout 3 simplement, on perd 500 000 calories à la bouchée.
Bah oui, l'œuf, bon. L'œuf battu avec un pinceau, ah oui, on va venir peindre le dessus de notre camembert pour lui donner une belle couleur dorée. On le met au four à 180 degrés.
Un petit matisse, par exemple.
Vous allez voir, il sera très éphémère.
C'est vrai.
Parce qu'il ne résistera pas aux 180 degrés et les 20 minutes de four. Après, il n'y a plus qu'à découper le camembert écoulant. Vous avez les pommes de terre, vous avez la pâte feuilletée. Est-ce que j'ai bien fait de changer d'avis ce matin ?
Ah bah oui, vous avez bien fait de ne pas la porter, parce que parler la bouche pleine à la radio, ça n'aurait pas été top.
Merci Olivier Pouls, qu'on retrouve chaque samedi dans la table des très bons vivants de Laurent Mariotte à 11h sur Europe 1. Elle est à l'affiche de l'Eurostratagème au théâtre Édouard VII, une pièce de Marivaux qui fait du bien. Sylvie Testu est notre invitée jusqu'à 18h.
Europe 1.
Vous écoutez toujours L'Équipée Sauvage et comme Eva, vous êtes au bord de l'extase.
Ah oui !
C'est bien, c'est bien normal, puisque dans quelques instants, nous connaîtrons enfin, après tout ce temps, toute cette attente.
Le tueur de John Kennedy.
Alors non, mais on vous dira qui a été élu chroniqueur du jour, c'est déjà ça.
L'Équipée Sauvage sur Europe 1.
16h, 18h,
Mathieu Noël.
Les secrets du rock, la pilule qui vous espionne de l'intérieur ou encore la vengeance des moustiques OGM. Quel thème vous aura le plus passionné aujourd'hui ? Quel chroniqueur repartira ? Avec la couronne sacrée. C'est toujours un moment douloureux pour les journalistes en compétition. Alors, comme le dit si poétiquement le monsieur cinéma d'Europe 1, Mathieu Charrier.
Allez, allons-y à sec.
Découvrons d'abord qui vous avez élu chroniqueur du jour. Eva Rock, dévoilons le vote du public.
Alors, je dois dire d'abord que vous êtes de plus en plus nombreux à voter et merci beaucoup
37.
Sur Twitter.
Non, soit une augmentation.
C'est pas vrai, vous êtes vraiment méchant. Et à 35%, c'est pour Jean-Philippe aujourd'hui.
Jean-Philippe
avec l'histoire des clashs.
L'histoire des clashs qui triomphe, Jean-Philippe.
Merci,
deux points pour vous, merci les clashs et merci à vous, Jean-Philippe, qui assoit son autorité, Angèle Le Châtelier. Vous voyez,
c'est le prix du public, tout le monde aime les clashs.
Je mets en place un patriarcat progressiste dans la rédaction.
En ce qui me concerne, je donne mon point aujourd'hui à Anissé Mbida. J'ai beaucoup aimé cette histoire qui tourne mal de moustique OGM. C'est parce que j'aime la série Black Mirror, probablement. La démocratie est le pire des systèmes politiques à l'exclusion de tous les autres, disait Winston Churchill. N'ayant compris que le début de cette phrase, j'ai décidé qu'ici, ce serait une tyrannie. Voilà pourquoi le vote de notre invité compte triple. Le moment est venu pour vous, Sylvie Testu, de trancher. Réfléchissez bien. À qui vont vos trois points ?
La musique.
Bon, alors, je ne sais pas si je vais faire durer le suspense très longtemps, mais c'est-à-dire que ces moustiques, ça... D'abord, je trouve qu'il y a une ironie. Plus on joue aux apprentis sorciers, moins ça fonctionne. Donc, il y a un moment, sans vouloir jouer Greta, il faudrait peut-être que ça cesse. On a essayé sur les pigeons, vous savez ça ?
C'est-à-dire ?
Un peu la même chose. Des pilules abortives sur les pigeons. Oui. Ça n'a pas du tout marché.
Bah non, on le voit bien tous les jours dans Paris.
Voilà. Le premier animal que vous voyez dès que vous voyagez, c'est un pigeon.
C'est vrai, ça ne marche pas du
que
tout.
Que vous soyez en Europe, en Amérique, en Afrique,
il résiste
ou
à
en
tout.
Chine.
Il résiste à tout, c'est contre pigeon.
Ah, voilà un pigeon. Et pourtant, nous, on a balancé des pilules abortives. Je crois que c'était, ça a commencé dans les années 90, non, ce truc. Ils ont arrêté. Et j'ai trouvé ça vachement drôle, le fait de vouloir balancer des moustiques qui sont affaiblis. Avec les potes qui leur disent « Non, regarde, je vais te rendre un peu plus fort. » Il y a une solidarité de la malfaisance. Donc je voulais vous donner
c'est
mes points.
Très et c'est donc Anissé Mbida qui triomphe aujourd'hui avec 3 points plus 1
mais
point.
Mais ça m'a intéressé, hein, pardon, hein, c'est toujours dur.
C'est toujours dur. Jean-Philippe, qui était pas toi.
Vous avez déjà les points du public, je vous dis à lui avec
et
la
vous
pilule,
n'aurez pas eu les points du voisin, puisqu'on rappelle que Jean-Philippe était le voisin de notre invité Sylvie Testu. Merci Sylvie d'avoir été avec nous durant ces 2 heures.
Merci à vous.
On rappelle que vous êtes au théâtre Édouard VII dans un Marivaux excellent, l'heureux stratagème où vous donnez notamment la réplique à Eric Elmosnino. Merci d'avoir joué le jeu. Merci également à ma Dream Team de la rédaction d'Europe 1, Eva Rock, Angèle Châtelier, Jean-Philippe Ballas, Jérôme Lacroix et Anissé Mbida, dont le professionnalisme m'aide au quotidien malgré les doutes qui m'habitent. Oui, Anissé, un dernier mot ?
J'ai entendu beat, mais j'ai pas entendu
oui, non, merci Anissé, merci pour votre collaboration aujourd'hui. L'équipe est sauvage, revient demain 16h.
Europe 1,
16h, 18h. L'équipe est sauvage.
Mathieu Noël.